Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va éviter de parler des retraites, on en a beaucoup parlé cette semaine. On va commencer avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est-il le laboratoire de ce qui peut nous arriver ? La livre sterling est à son plus bas niveau. On pourrait presque dire historique parce qu'elle tend vers la parité face au dollar, ce qui ne s'est jamais produit. Le taux d'emprunt de la Grande-Bretagne s'est totalement envolé. La Grande-Bretagne emprunte comme l'Italie, avec un taux d'emprunt qui a retrouvé son niveau de la crise financière d'il y a un peu plus de 10 ans. La Banque d'Angleterre, en urgence, a acheté 65 milliards de livres de titres anglais à 15, 20 et 30 ans pour essayer d'inverser la vapeur. C'était mercredi. L'inflation est à 10%. C'est le niveau le plus élevé des pays du G7. Et désormais, Liz Truss se fait remonter les bretelles par le FMI, qui demande à Londres de faire volte-face sur l'ensemble du programme fiscal qui a été décidé pour l'année prochaine, 200 milliards de livres de baisse d'impôts et de boucliers anti-inflation. Voilà, les trussonomics sont peut-être la plus grave erreur de politique budgétaire que l'on a commis dans l'histoire, c'est ce que disait Larry Summers il y a quelques heures. Le budget 2023, il a choisi l'endettement, il a choisi la dépense, il a choisi le déficit. Est-ce le bon choix au fond ? Quand on est face à une crise et un choc très violent pour éviter d'aller trop bas afin d'espérer repartir du bon pied. Et on verra que, avec certains arguments, on peut considérer que le quoi qu'il en coûte, ça rapporte. La bonne politique de demain suppose de miser sur le capital humain en priorité. On en parlera dans cette émission et puis on parlera des revendications salariales aussi. Et si on a le temps, j'aimerais bien faire réagir mes invités à l'appel de Gaspard Koenig. C'était dans les Échos de mercredi, je crois, où il considère que le droit à la paresse, ça se justifie pour deux raisons. Xavier Jaravel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à la London School of Economics, prix du meilleur jeune économiste 2021 du Cercle des économistes et du journal Le Monde. Jean-Marc Vittori, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste aux Échos, c'est vous qui avez signé cette semaine Le quoi qu'il en coûte, ça peut rapporter. Et notamment un papier qui m'a beaucoup intéressé sur cette histoire d'inflation qui frapperait toujours en priorité ceux qui n'ont rien, les plus modestes. Et là aussi, ça mérite d'être décrypté parce que c'est comme ça que c'est souvent dit. Et donc, à force de le répéter, tout le monde pense que c'est une évidence et une vérité. Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité directeur de la Fondation Croissance Responsable. On va commencer par un SMS que vous avez reçu tout récemment. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce SMS ?
Mais écoutez, alors d'abord, je tiens à préciser, avant de révéler le contenu, que je suis parfaitement à jeun. Bon. D'une part, et deuxièmement, que j'ai 10-10 à chaque œil. Bon. Parce que ce matin, donc, j'entendais donc, plusieurs intervenants qui parlaient pour eux les prix les plus importants en termes d'augmentation d'énergie, c'est x10 et x15. Donc nous avons reçu une proposition d'un grand énergéticien français, que je ne nommerai pas, pour renouveler nos contrats. Parce que je rappelle qu'à titre industriel, nous utilisons l'électricité et le gaz pour notre process, donc c'est pas juste du confort. Donc pour le gaz, on passe de 20,13 € le mégawatt à 1 000 € le mégawatt, c'est-à-dire c'est par 50. Et au niveau électricité, on passe de 63,01 € à 3 000 € le mégawatt, c'est-à-dire par 50. C'est-à-dire que nous avons une facture énergétique, contrat à l'appui, qui est multiplié par 50. Alors, je sais bien que être chef d'entreprise, il faut être très créatif. Être industriel depuis maintenant 2 ans, il faut être encore plus créatif. Mais là, je dois vous avouer que face à x50, là, je ne sais pas encore très bien comment on va faire. Donc moi, j'ai un petit message, parce qu'il y a une réunion actuellement à Bruxelles. Alors, on parle de taxer les super profits, etc. Mais je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'entreprises qui ne peuvent pas payer la note. Pour donner une idée à nos auditeurs, à x50, en clair, ça veut dire que vous devenez un vassal d'EDF et autres. C'est-à-dire que votre entreprise devient uniquement orientée pour payer les factures énergétiques, si elle le peut. C'est-à-dire que pour certains, ces montants-là dépassent le résultat net avant impôt. C'est-à-dire qu'en clair, vous allez être en situation de faillite virtuelle. Donc je pense que la question aujourd'hui, c'est pas de savoir si on taxe les super-profits, etc. Il y a un plan d'urgence à mettre en œuvre, du même niveau que la crise Covid, parce que beaucoup d'entreprises ne vont pas pouvoir survivre à ce tsunami énergétique. Et on n'en voit absolument pas le bout. Alors, tous les contrats se terminent le 31 décembre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que soit vous passez un contrat professionnel, et ça va être dans les semaines à venir, sinon à partir du 1er janvier, minuit, une minute, vous passez en tarif public, et là, c'est la grande inconnue. Mais il n'y a aucune entreprise qui peut tenir, enfin en tout cas dans le monde industriel, où vous avez quand même des marges qui ne sont pas extraordinaires, à x50. Donc, messieurs les ministres qui cogitaient à Bruxelles, là, je pense qu'il faut vraiment trouver un plan d'urgence pour permettre au tissu industriel européen, parce que je pense que c'est pareil dans pas mal de pays, pour survivre ce tsunami.
Ça veut dire qu'il faut un bouclier entreprise.
Écoutez, à chacun son métier. Mais ouais. moi, je ne sais pas intégrer aujourd'hui. Si vous voulez, depuis maintenant un an et demi, on explique à nos clients que les coûts des matières premières augmentent, alors les coûts des transports augmentent, les coûts des carburants augmentent. Mais je veux dire, au bout d'un moment, déjà, je peux vous dire que c'est très difficile de faire passer des hausses de prix. Mais ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible.
Et donc là, s'il n'y a pas de réponse politique, votre solution, c'est de faire jouer la concurrence, d'aller voir un autre fournisseur pour qu'il vous dise c'est pas 1 000 euros le mégawattheure, mais 850.
Écoutez, je vais vous dire, non mais aujourd'hui, il faut pas rêver. De toute façon, il n'y a pas d'offre concurrente qui est capable de nous procurer des différentiels importants. Mais je veux dire, bon, à l'instant T, ça, ces prix-là ont 72 heures.
Donc j'ai vu le SMS. Hein,
voilà, donc c'est notre direction achat. Mais je pense que beaucoup d'auditeurs qui sont industriels ou qui ont des contrats professionnels se reconnaîtront dans ces chiffres. Donc quand j'entends que par 10, on a atteint la limite, bah nous, on est par 50. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là.
Une réaction à ça, Xavier Jaravel ?
Peut-être deux remarques. La première, c'est que s'agissant des boucliers pour les consommateurs particuliers, évidemment, on a fait beaucoup en France, dans beaucoup d'autres pays aussi, mais du fait des règles européennes, on ne peut pas vraiment faire ça, en tout cas en l'État, pour les entreprises. Qui a un cadre juré
avec
les aides
d'État. Du fait de la fixation du prix du mégawattheure au coût marginal de la dernière unité produite, qui est celle du gaz, c'est ça ?
On peut revenir sur ce point-là.
Non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire.
C'est juste du fait des aides d'État. On ne peut pas aider les entreprises sans un cadre spécifique, d'où la réunion à Bruxelles, pour avoir autant sur les ménages.
On a le droit de faire ce qu'on veut avec les ménages, mais on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec les entreprises.
Globalement, oui.
Pour des raisons de concurrence.
Des raisons de concurrence, exactement.
Ah, oui.
Et donc, d'où l'enjeu des réunions qui se tiennent ces temps-ci. Et après, la question du coût marginal dont on a parlé plusieurs fois. Peut-être juste en un mot, c'est de dire qu'effectivement, pour la dernière unité produite, c'est très très cher, donc on a ce problème de production. Et après, si on vous facture en fait toute la quantité d'électricité que vous consommez à ce prix-là, pour vous c'est un coût énorme, et du coup ça crée des profits eux-mêmes énormes pour des producteurs qui ont un coût
beaucoup plus faible.
Et donc, la question c'est comment est-ce qu'on résout ça ? Ça peut être avec une taxe sur les super profits où ensuite on redistribuerait, mais il faudrait trouver comment redistribuer.
C'est ce qui va être discuté aujourd'hui.
Et l'autre approche, ce qu'on appelle les prix plafonnés, où en fait on va dire si vous êtes producteur de renouvelables ou de nucléaire ou autre, vous ça va être que jusqu'à peut-être 100 euros ou 200 euros du mégawattheure à voir, mais du coup pas 3000. Donc à voir ce qui se dessine, mais il y a plusieurs approches et il faut une évolution du cadre communautaire qui va se produire pour permettre ces aides d'État. Étant donné les règles du droit de la concurrence.
Juste pour insister sur un point de Xavier, par rapport à ce que dit Laurent, la question de ces prix extraordinairement élevés et d'une taxation des super-profits n'est pas déconnectée. Les deux, Xavier l'a dit, mais les deux sont liés. Il y a bien, quand on vend le dernier kilowattheure, enfin le kilowattheure au prix du dernier kilowattheure produit, et que ce prix est extraordinairement élevé, ça fait de la marge pour tous les autres kilowattheures qui sont produits à un prix moindre. Et donc, il y a bien beaucoup d'argent d'un côté et qui manque de l'autre. Donc, il y a même un problème de balance à faire.
Juste avant que vous réagissiez, Laurent Wauski, pour que tout le monde comprenne bien, c'est exactement l'un des enjeux de la réunion des ministres européens de l'énergie aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles a proposé qu'on fixe un plafond à 180 euros le mégawattheure, plafond un peu élevé d'ailleurs sans doute, et tous ceux qui produisent nettement en dessous, c'est-à-dire qui produisent à la biomasse, avec du barrage, avec du vent, avec du soleil, du nucléaire, eh bien, passé ce plafond, effectivement, il y a une redistribution de tout ce qui est gagné pour que les États puissent eux-mêmes redistribuer derrière. Après, est-ce que ces mécanismes se mettent en place suffisamment rapidement pour que le SMS que vous avez reçu soit complètement retouché avec un zéro en moins ? Là, je dois vous avouer que vous êtes un peu dans la vraie life et nous, on commente.
Justement, alors, Laurent, je vais compléter mes propos. Évidemment qu'il y a un lien, mais je dirais que par expérience, quand on commence à parler, d'ailleurs, c'est pas un hasard si beaucoup d'États n'utilisent pas le terme taxé. On parle de contribution. Enfin, en clair, on fait de la sémantique. Mais par expérience, quand on parle de ce genre de sujet, taxer les super profits, ça, c'est un débat souvent très idéologique et on est à moyen terme. Là, on est dans le temps court. On est dans le temps très court. C'est-à-dire que il y a pour beaucoup d'entreprises, la question, elle va se poser dans quelques semaines. C'est-à-dire que quand les contrats expirent, parce que les contrats n'expirent pas tous le 31-12, je veux dire, concrètement, on fait quoi? Et oui. Là, il y a un plan d'urgence. Et donc, c'est super de pouvoir, je dirais, faire de la redistribution fiscale, évidemment. Mais moi, j'ai quand même quelques doutes sur la capacité des États à caler cette redistribution fiscale avec l'urgence énergétique. Là, on est en semaine.
Mais c'est pour ça que, Vincent, le mécanisme principal, ce sera ce plafonnement des prix. Qui permet de fait de redistribuer pour les producteurs qui ont un coût faible vers les consommateurs.
Enfin, on va voir. Il va falloir que ça aille vite.
Oui, il va falloir que ça aille très vite. Hein. Ça aille vite. Non, mais effectivement, il y a un problème de collision des rythmes hein, qui est absolument, non, qui peut ça. Être absolument redoutable. Et ça peut se jouer à 2-3 mois près. Ça peut mettre des milliers, voire des dizaines de milliers d'entreprises françaises au tapis si ce problème de rythme n'est pas réglé.
Mais on se retrouve. Enfin, là, c'est là où on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas, comme sous Covid, face à un danger qui finalement finit par ressembler au danger de Covid, où tout le monde allait au tapis. Alors c'était une décision administrative d'un côté, là c'est un choc énergétique d'une violence absolument jamais vécue. Mais effectivement, si on casse les entreprises, si on casse le capital humain, et on va revenir justement sur, peut-être que c'est le bon choix de choisir la dette en ce moment.
Laurent. Justement, alors par rapport, je vais aller dans vos traces, on est en plein dans, si vous voulez, la grande question de réindustrialiser ou industrialiser ou être attractif au niveau industriel. Je connais peu d'entreprises industrielles qui ne sont pas consommatrices d'énergie. Et les révolutions industrielles ont à leur origine des révolutions énergétiques. Donc là, si le sujet est sur la table, bah, ce que je propose, c'est on va arrêter les incantations. Et là, il y a un sujet concret. Donc,
C'est ce qu'explique Jean Covici très bien. Il explique très bien que si en 150 ans, on est devenu ce qu'on est devenu, c'est parce qu'on avait de l'énergie bon marché qui s'appelait le pétrole. Et que
voilà, et du charbon avant.
Ça a été l'eldorado de la croissance et du miracle industriel. Oui. Alors il y a Guilhem qui me dit, mais pourquoi on ne passerait pas du coût marginal de la dernière unité produite au coût moyen de production? Je donne mon explication. En fait, il la pose à vous, Xavier. Si on n'est pas sur le coût marginal, ça veut dire que celui qui produit au coût marginal, il arrête de produire. Et donc, ça veut dire que notamment tous les producteurs d'électricité au gaz n'existent plus. Et on parle d'un sujet qui est l'énergie. Donc,
que vous auriez du rationnement. Vous n'auriez pas assez d'électricité produite. La réalité, c'est juste que les coûts de production pour une partie, peut-être pour 5-10% de la production, sont maintenant beaucoup, beaucoup plus élevés. Et donc, à court terme, ça fait ces prix très, très élevés. Enjeu du coup de réaction rapide. Il y a aussi un enjeu en fait d'un peu plus long terme. Quand vous regardez les marchés à horizon même 5-6 ans qui existent en Allemagne, on voit que les prix et l'électricité et du gaz restent très élevés, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Donc il y a un autre enjeu pour l'Europe qui est dans une perspective de plus long terme. Si maintenant on est dans un nouvel équilibre où les prix sont peut-être de l'ordre de 2 fois ou 1,5 fois plus élevés en Europe qu'aux États-Unis, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut subventionner certaines industries électro-intensives parce qu'on veut préserver cette part de l'activité économique, ou est-ce qu'on dit c'est un nouvel équilibre mondial et les avantages comparatifs ont changé et donc à plus long terme on laisse le jeu du marché s'exprimer.
Le jeu du marché,
donc
c'est celui qui peut délocaliser aux États-Unis.
De plus long terme, qui pour l'instant on n'a pas vraiment abordé, mais qui reste important.
Je voudrais juste insister sur le fait que cette tarification au coût marginal, ça a été un outil extrêmement efficace.
Oui,
maintenant, tout le monde tape dessus en disant c'est stupide, il fallait jamais faire ça, tout ça. Pendant des décennies, ça a été un outil extrêmement efficace. Ça a permis d'avoir un ajustement de l'offre et de la demande qui était à peu près correct. Là, on a un problème sur, comme le disait Xavier, sur la dernière partie de la production, sur les 5 ou 10% les plus difficiles à produire, qui sont à un coût exorbitant, et donc ça met le système, ça rend le système intenable. Mais pendant des décennies, ça a été très efficace. Donc il faut trouver un système de barrière, de plafond. Mais jeter ce système, c'est sans doute prendre des risques pour l'avenir qui sont encore plus
grands. Dans une vie normale, ça fonctionne très bien. Et ça permet d'avoir un marché européen parfaitement fluide. Dans une vie complètement atypique comme aujourd'hui, ça dysfonctionne. Et là, il faut trouver une solution.
Et là, il faut des dispositifs.
Je suis complètement d'accord. Allez-y, Laurent Wronski. On va essayer d'avancer un peu. On est dans l'actualité, en toute façon.
Je voudrais répondre à Jean-Marc. Alors, je vais être un peu impertinent, mais
allez-y.
Mais avant, tout était mieux, même l'avenir. Et ce à quoi on assiste maintenant depuis, on va dire, 5-6 ans, c'est exactement, il y a un vrai parallèle que j'utilise régulièrement, c'est le parallèle du climat des affaires avec le climat de la planète. C'est-à-dire qu'il nous tombe dessus des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. C'est-à-dire que gérer une pandémie, personne n'imaginait un instant qu'on allait gérer une pandémie et qu'on allait tous être cloîtrés chez nous. Moi, des coûts de l'énergie multipliés par 50, j'ai plus de 35 ans d'activité, jamais j'aurais imaginé un truc pareil. Et j'ai connu 73, j'ai connu tout ça, c'était progressif. Mais tout ça, ça arrive dans un espace-temps qui est extrêmement court. Donc, l'idée, c'est pas forcément de dire, bah, ça c'est bien, puis maintenant ça c'est pas bien, c'est qu'on est obligé, et nous, entreprises, on pratique depuis 10 ans, de changer à 180 degrés, de pivoter à une fréquence complètement inconnue, parce que les conditions de marché, de tout ce que vous voulez, ça change de manière complètement dingue. Et ben, c'est pareil. Je veux dire, là, il faut pas avoir de religion sur les modèles. Je veux dire, ce modèle, ça a très bien marché. Maintenant, ça marche plus. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, justement, puisqu'on va aborder le sujet du capital humain, comme l'homme a horreur du changement et adore les habitudes, comment on fait pour faire des pivots à 180 degrés, que ce soit dans les affaires, dans la politique, dans la régulation? Et une dernière chose, les sujets que vous abordez sont fondamentaux. Sur l'énergie seulement, c'est pas seulement un sujet économique, c'est aussi un sujet géopolitique. Et ça a été un petit peu ignoré par certains qui pensaient qu'on aurait de l'électricité bon marché, ad vitam, et du pétrole bon marché. Je rappelle que pendant le Covid, on a aussi eu des futurs sur le pétrole qui étaient négatifs. Hein.
Ah oui, on a eu du pétrole.
Voilà, et donc vous voyez, en l'espace de même négatif. Pas 14 mois, je veux dire, là, c'est même pas 180 degrés, quoi. Aujourd'hui, il faut vraiment s'accrocher aux branches, comme dirait l'autre, et donc, évidemment, d'avoir un capital humain qui soit capable de se renouveler, c'est pas donné à tout le monde.
Fabrice m'écrit, bonjour Nicolas, il est urgent que l'État régule le prix de l'électricité, sinon cela va devenir une bombe économique pour nous, les entrepreneurs. Ça m'amène finalement à... Bon, je parlerai du UK après, mais ça m'amène à ce que vous écriviez dans Les Échos du 27 septembre. Jean-Marc Vittori, le quoi qu'il en coûte, ça peut rapporter. On est un peu horrifié quand on voit le budget à 155 milliards de déficit, 270 milliards d'emprunts, 5% de déficit, 10 800 recrutements de fonctionnaires. Mais en fait, est-ce que c'est pas le bon choix? C'est un peu ce que vous vouliez dire ou ce que vous vouliez argumenter dans ce papier.
C'est un peu plus compliqué que ça.
Justement,
Il faut repartir sur ce qui s'est passé.
On a trois minutes pour commencer, on continue.
Sur ce qui s'est passé en 2008-2009, crise financière brutale, plan de soutien, et très vite on resserre la vis. En Europe comme aux États-Unis. Et on a une reprise qui est très lente, qui est laborieuse, qui est très difficile. Et on ne savait pas, en particulier en Europe, comment organiser un soutien budgétaire plus massif. Le cadre intellectuel et une partie du cadre juridique rendaient ça très compliqué. 2020, situation très différente. Donc, les États décident brutalement d'arrêter des pans entiers de l'économie, risque de fracture, de casse majeure de l'appareil productif. Et donc, on déverse de l'argent absolument massivement pour les entreprises et leurs salariés. Cet argent, il est en fait imprimé par les banques centrales. Pour faire rapide. Et du coup, on a dépensé beaucoup plus d'argent public, et quand on regarde après les ratios dette sur PIB, qui est important, puisque le PIB, ça détermine l'argent qu'on a pour rembourser cette dette, ce ratio, il n'a pas plus augmenté, et dans la plupart des pays, il est un peu moins augmenté que la fois précédente. Donc on a dépensé plus, et finalement, la facture est moindre. Donc, le quoi qu'il en coûte, ça peut marcher, mais pour ça, il faut que la Banque Centrale joue le jeu. Et la Banque Centrale aurait pu faire ça dans les années après la crise financière, parce qu'on était en situation de déflation. La Banque Centrale a pu faire ça en 2020, parce que, comme le rappelait Laurent, on avait des pressions déflationnistes très fortes, avec même des prix à terme du pétrole qui ont été négatifs un temps. Et là, on est dans la situation exactement inverse. C'est-à-dire que, pour que ça peut marcher, dans des conditions particulières, et la condition particulière, c'est qu'on soit en situation de déflation et que les banques centrales aient besoin de stimuler les prix, là, on est dans la situation exactement inverse. Cette politique-là, qui a été efficace en 2020, elle risque d'être extraordinairement périlleuse en 2023.
Vous avez pourtant pas mal de gens... Enfin, dans ceux qui regardent un petit peu les choix de politique budgétaire qu'on a pu faire depuis 2021-22, qui considèrent que ça n'a pas été une si mauvaise idée que ça, que de freiner l'inflation pour éviter d'arriver à des niveaux stratosphériques à la britannique, du coup pour éviter d'avoir l'effet de second tour, pour éviter que l'économie ne ralentisse trop, pour pouvoir mieux rebondir derrière.
Non, mais c'est un pari. C'est un pari intéressant, à condition que la situation énergétique ne dure pas trop longtemps, sinon la facture devient absolument explosive. Et là, on retombe sur le problème qu'on évoquait précédemment. Aujourd'hui, on voit bien que ça dure plus longtemps que ce qu'on croyait, que les niveaux sont plus élevés que ce qu'on croyait, que les situations de pénurie risquent d'accroître encore ces tensions sur les prix, et donc la facture pour les États.
Vous réagirez dans un instant, Xavier Jaravel. Je vous ai vu acquiescer à pas mal de choses que disait Jean-Marc Vittori. Vous aviez raison de rappeler cette période où on a resserré la vis, évidemment collectivement trop fort. C'est ce qu'on appelait la rigueur ou l'austérité, on prenait les mots que vous voulez. Il y a quand même des économistes à l'époque qui tiraient le signal d'alarme. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les économistes atterrés.
Non, ceux qui tiraient le signal d'alarme ne proposaient rien en face.
Je ne dis pas qu'ils proposaient.
J'ai écrit un papier début 2012 qui était titré Après l'échec de la rigueur, où je dressais exactement ce constat. Je disais, la rigueur, ça n'a pas marché, mais ceux qui proposent autre chose ne proposent rien de cohérent et ça n'a pas changé.
C'est vrai que ce sont souvent plus sur l'indignation et la dénonciation que la proposition. On marque une pause. Dans un instant, on poursuit sur ce terrain-là et puis on évoquera quand même ce qui se passe au Royaume-Uni. En une semaine, c'est quand même une sorte de parfum de chaos dans ce pays qui est assez époustouflant. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics, Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, et Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité directeur de la Fondation Croissance Responsable. Xavier Jaravel, est-ce qu'il a fonctionné avec un risque de déflation des taux négatifs? Ça ne peut plus fonctionner aujourd'hui? C'est ça l'idée?
Oui, c'est ce que disait Jean-Marc très clairement tout à l'heure. Il y a une situation complètement différente aujourd'hui. Le quoi qu'il en coûte, c'était une situation où l'économie était mise sous cloche, il n'y avait pas d'enjeu de réallocation des facteurs de production d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre. C'était une période assez courte. Aujourd'hui, c'est une situation très différente. On ne sait pas combien de temps la crise va durer. Et donc, l'enjeu, c'est plutôt le sur-mesure plutôt que le quoi qu'il en coûte. Un peu de combien ça coûte et des mesures qui soient très ciblées pour s'attacher à ceux qui en ont le plus besoin. Ce que pour l'instant, on n'a pas trop vu. Donc, tout à l'heure, vous évoquiez par exemple, la question du bouclier tarifaire pour réduire l'inflation et dire comme ça, les ménages ne voient pas beaucoup d'inflation, ils ne vont pas demander de hausse de salaire et donc comme ça, on anticipe et on tue un peu à la racine une dynamique de hausse de salaire, plus d'inflation, etc. Donc ça, c'est un argument qui s'entend.
Oui.
Et en même temps, le fait de ne pas cibler certaines des grands boucliers sur l'électricité, le gaz, la remise à la pompe, ne pas cibler ça sur les ménages modestes, est quand même assez difficilement explicable du point de vue économique. Après, il y avait des facteurs politiques qui ont rendu ça nécessaire pour que ça passe à l'Assemblée. Mais il me semble que c'est ça un peu le défi, c'est arriver à une situation où on peut se mettre d'accord pour avoir des aides davantage ciblées. Et un exemple, c'est sur le bouclier tarifaire, avoir des types d'aides de type grille tarifaire progressive. Vous avez un prix, disons, régulé pour une quantité donnée, par exemple 4 mégawattheures par ménage pour l'électricité en ajustant pour la taille. C'est ce que va faire l'Allemagne. Ils sont en train de fixer leurs paramètres. C'est ce que fait déjà la Belgique. C'est ce qui est fait ailleurs comme en Colombie-Britannique, en Californie. Donc c'est des systèmes qui existent et qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc l'idée globale, c'est soutien, oui, mais soutien plus ciblé, puisqu'on n'est pas dans une situation où il faut mettre l'économie sous cloche. Et on rappelle, juste pour rappeler.
Et là, on n'a pas répondu à la problématique de quantité d'entreprises quand on a dit ça.
En tout cas, de quantité d'entreprises.
De quantité d'entreprises qui reçoivent des SMS comme ceux de Laurent Vronsky, sont devant des factures d'énergie qui sont plus financées.
Et ça, c'est le sujet de tout à l'heure sur la régulation des prix.
Oui, d'accord.
Et juste pour rappeler que les faillites ont baissé après à 50% du nombre de faillites, entre guillemets, normales, en 2020, 2021 et 2022, ça continue.
Juste.
Donc on est plutôt dans une situation où on protège quand même encore beaucoup, malgré la situation économique difficile.
Bon, c'est le début du remboursement de PGE. On va voir comment ça va se passer. Je crois qu'il y a 1,8 milliard d'euros provisionnés pour dans le budget 2023, pour justement couvrir les défauts. Ça semble pas beaucoup sur les 140 milliards d'euros de PGE qui avaient été délivrés. J'aimerais que vous faire. Ah, il ne faut pas toucher le micro, Xavier, parce que ça s'entend beaucoup, 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 en fait. Vous avez fait un papier, Jean-Marc Vittori, sur l'inflation et les perdants. On entend toujours, sur tous les plateaux, l'inflation, ça touche davantage les ménages les plus pauvres que les autres. Qu'est-ce que vous avez voulu dire?
Alors, c'est un argument qu'on entend depuis longtemps, et ce qui m'a frappé, c'est qu'il a été à nouveau employé par Jay Powell, donc le président de la Réserve fédérale des États-Unis, à Jackson Hole, où il a fait donc l'université d'été des banquiers centraux, et où il a fait un discours très concis, inhabituellement concis, avec des messages très forts, et il a ressorti cet argument qui est pour il faut lutter contre l'inflation parce que ça frappe les plus pauvres, et c'est un argument ancien, c'est pas très souvent hein, que les financiers emploient des arguments d'équité sociale pour défendre leur politique. C'est un argument ancien, c'est celui par lequel notamment Jean-Claude Trichet, quand il était directeur du Trésor au début des années 90, fin des années 80, début des années 90, convainc Pierre Bérégovoy, qui est à l'époque ministre de l'économie et des finances, de lutter contre l'inflation. Ministre socialiste et ministre socialiste de l'économie promeut la concurrence pour que les prix augmentent moins vite, parce que l'inflation, ça fait mal aux pauvres. Donc voilà, ça, c'est l'argument, on l'entend très souvent. Et alors, évidemment, quand aujourd'hui, quand on regarde les plus pauvres, hein, quand vous prenez le dernier décile des revenus, c'est-à-dire il y a 90% des gens qui gagnent plus, ça c'est voilà, c'est le revenu du dernier décile. Quand vous regardez cette personne-là, comment elle dépense 30% en gros, hein, 30% sur l'alimentation et l'énergie, et le premier décile, les revenus les plus élevés, les revenus les plus élevés, eux, c'est 20%. Donc, quand les prix de l'alimentation et de l'énergie augmentent fortement, et aujourd'hui c'est le cas, les plus pauvres sont les plus frappés par l'inflation. Mais c'est pas le seul mécanisme par lequel l'inflation change les histoires de répartition. En France, les salaires les plus bas, c'est le SMIC. Le SMIC, il augmente dès qu'il y a une augmentation des prix de plus de 2%. Donc c'est une
augmente indexation. Même plus vite, car il est indexé sur l'inflation des 20% les plus pauvres, qui est supérieure à l'inflation globale.
Donc c'est une indexation qui est rapide et intégrale. Donc les salariés au SMIC, ils sont compensés normalement par l'augmentation de leurs revenus. Les salaires moyens, les salaires supérieurs, ils augmentent maintenant une fois par an. Alors, Laurent Vronsky va dire oui, mais on donne des primes, etc. Mais, et donc, il y a du retard qui peut s'accumuler de manière tout à fait substantielle. Et puis, il y a encore un autre mécanisme, c'est que l'inflation, ça profite aux débiteurs au détriment des créanciers. Et souvent, pas toujours, hein, mais souvent, les créanciers sont plus riches que les débiteurs. Les débiteurs, ils remboursent avec de l'argent qui est dévalorisé leurs créanciers, et leurs créanciers donc sont remboursés en partie en monnaie de singe. Et donc il faut additionner tous ces effets pour voir ce que ça donne. Si on a seulement l'effet impact sur le panier de la ménagère ou du ménager, il faudrait s'habituer à dire ça. Évidemment, ça frappe plus les plus pauvres. Mais si on prend l'ensemble des mécanismes qu'il y a derrière, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la vraie réponse à ce moment-là, c'est ça dépend. Ça dépend des formes d'inflation, ça dépend de l'organisation sociale, ça dépend des indexations. Il y a des pays où il y a des indexations générales, des pays où il y a des indexations partielles. Ça dépend des périodes, parce que ça change. Hein. En France, les salaires étaient très largement indexés dans les années 70. Ils le sont beaucoup moins aujourd'hui, sauf pour les plus bas salaires, etc.
Ce que je trouve fascinant dans ce que vous venez... Alors là, je vais sur une observation vraiment purement journalistique. C'est que... C'est typiquement la situation où on va asséner quelque chose en trois phrases, oui, qui semble complètement évident et complètement certain et indiscutable.
Et intuitif. Donc.
Et la démonstration pour réussir à faire comprendre la complexité du sujet avec toutes les bandes du billard, eh bien, elle demande un peu plus que trois mots, mais elle est nécessaire. Et c'est un peu, ça me rappelle l'échange qu'on a pu avoir hier avec Stéphane Carcillo et Éric Heyer sur la complexité du sujet retraite ou la complexité du sujet assurance chômage. Vous voulez réagir, Laurent?
Oui. Allez-y. Parce que je pense, la démonstration de Jean-Marc est brillante, mais je pense que pour beaucoup de gens, elle est juste inaudible. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que et encore une fois, c'est pas une critique, hein, mais je veux dire, c'est sympathique d'avoir un débat entre personnes qui ont un certain niveau de connaissance, mais quand vous êtes confronté à des pressions sociales, et puis donc quand Jean-Marc parle de hausse de salaire, les chefs d'entreprise sont confrontés maintenant à des pressions sociales depuis 14 mois qui sont permanentes. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une hausse qui est ressenti par les gens, eux, ils ne font pas ce calcul-là.
Ce n'est pas la peine de venir avec un devoir de Sciences Po pour leur expliquer.
Mais vous leur donnez un papier qui leur montre ça, les types, ils vous rionnez. Donc, si vous voulez, l'important, ce n'est pas, je dirais toujours, et ça va évidemment choquer ceux qui ont une rigueur intellectuelle, ce n'est pas forcément ce qui est juste, c'est ce que vous percevez, ce que vous comprenez. Et je rappelle que la dernière jacquerie fiscale qu'a connue la France, c'était pas en 1789, c'était avec les Gilets jaunes. Et il faut demander au candidat Macron, enfin Alexandre Macron, ce qu'il en pense et comment c'était facile à gérer. Et c'était uniquement parce que le prix du gasoil avait augmenté. Donc quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, le problème c'est qu'on a, on a des gens, et moi je suis vraiment, je suis aux avant-postes, je vois ce qui se passe,
mais
qui avec, j'en termine juste, avec leurs repères à eux, avec leurs factures à eux, je veux dire, il y a une pression sociale qui est absolument énorme, qui est en train de monter. Alors, je n'ai pas la réponse à la question, mais quand on pose la question, mais est-ce que vous avez augmenté les salaires ? Mais je ne connais pas une entreprise qui n'a pas pu les augmenter. C'est juste pas possible, c'est inaudible. Dire, vous n'allez pas discuter avec quelqu'un qui vous explique par A plus B que sur ses biens fondamentaux, les prix ont augmenté à deux chiffres, et vous n'allez pas commencer à lui sortir une courbe de Gauss avec le panier moyen de l'INSEE. Je veux dire, vous voyez, on est sur deux niveaux de discussion très différents. Donc, j'entends exactement ce que dit Jean-Marc. Non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et ça ne dévalorise pas la démonstration, c'est qu'il y a un tel niveau d'anxiété et d'incertitude que l'effort aujourd'hui pédagogique est encore plus compliqué que par le passé où on n'avait pas ces pressions-là.
Non mais
Jean-Marc Vittori.
Oui, ah, oui puis juste, c'est pas seulement du théorique. Regardez les entreprises où...
J'ai pas dit théorique.
Regardez les entreprises où aujourd'hui la pression devient très forte, où il y a des grèves. C'est pas les endroits où les salaires sont les plus bas. C'est pas la grande distribution, par exemple. Pourquoi ? Parce que dans la grande distribution, les gens sont payés au SMIC ou tout près du SMIC, et donc leurs salaires ont été revalorisés. Les entreprises où ça bouge, regardez Total. Total, je crois pas qu'il y ait un seul salarié au SMIC. C'est les gens dont les salaires ne montent pas. Les gens qui sont au plus bas salaire, c'est pas là actuellement qu'il y a de l'agitation sociale. Je dis pas qu'il y en aura pas demain, je dis pas qu'il y a pas d'anxiété, je dis pas qu'il y a pas des gens qui sont dans la panade avec des bas salaires, mais aujourd'hui, la tension très concrète, pas celle qu'on a dans les discours sur les plateaux télévisés, mais celle qu'on a dans les entreprises aujourd'hui, c'est pas dans les entreprises qui sont au plus bas salaire, parce que ceux-là, les salariés sont relativement, hein, j'insiste sur le relativement protégé, c'est là où les salariés ont des niveaux de revenus qui sont supérieurs, qui eux-là sont beaucoup moins protégés. Et c'est là que la tension sociale aujourd'hui est en train de monter.
Alors, c'est une lecture. Maintenant, je vais vous en donner une autre. Je veux dire que quand vous êtes dans une entreprise où, littéralement, chaque jour, on vous explique qu'il y a des super profits à tel point que votre entreprise, qui gagne très très bien sa vie, a attiré les foudres du législateur fiscal pour faire des super profits, vous êtes dans une entreprise qui est comme ça, et vous avez eu un entretien annuel d'évaluation où vous a dit qu'il fallait modérer les salaires et que vous avez eu 3,5%. À votre avis, il se passe quoi ? Je veux dire, c'est pas juste, je suis moins protégé au niveau de mes revenus et de l'indexation, c'est que toutes les entreprises qui ont été dans cette situation avant, pendant et après, où il y a des super profits, tout le monde sait que ça marche très bien, et où il y a des plans sociaux, et où il y a de la modération salariale, vous avez de l'agitation sociale. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un niveau d'anxiété, moi je le mesure quotidiennement.
Ça, ne le nie absolument pas.
Non, oui, sûr, non, mais c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas d'argument. La question fondamentale, c'est pas sur les données, c'est comment on arrive à présenter les choses à la population et aux équipes pour qu'on s'en sorte. Et aujourd'hui, vous avez un niveau d'anxiété qui est maximum, et tous ces gens qui travaillent, ils se retournent vers qui ? Ils se retournent vers leur manager. Moi, j'en fais partie.
Xavier, vous vouliez réagir ?
Oui, non, je partage généralement ce qui vient d'être dit. Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition très forte, mais juste sur la question des données et de la mesure, parce que semble qu'il y a deux enjeux assez concrets. Le premier point, c'est donc Jean-Marc a très bien expliqué les différences entre groupes de revenus et les différents niveaux d'analyse qu'il faut avoir sur le patrimoine, l'indexation, les salaires. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore plus d'hétérogénéité au sein d'un groupe de revenus qu'entre groupes de revenus. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. Un exemple, c'est un ménage, par exemple, modeste, qui vit en territoire rural, qui doit prendre la voiture tous les jours pour aller travailler, tout à fait exposé à la hausse des carburants, très difficile. Quelqu'un d'autre qui vit à Paris, qui prend le métro, peut-être qu'il gagne le même revenu, mais beaucoup mieux protégé contre l'inflation. Et donc du coup, ça peut créer un ressenti très différent, qui n'est pas un ressenti, c'est une réalité qui est très différente. Et par rapport aux chiffres moyens, c'est utile de dire qu'il y a toute cette hétérogénéité et qu'on peut d'ailleurs mesurer. Et donc on peut montrer, en fait, à un point dans le temps, vous avez à peu près un quart des gens qui ont deux fois le taux moyen et un autre quart qui est à peu près la moitié du taux moyen. Ça, c'était avant la crise. Dans la crise actuelle, c'est peut-être encore plus différent vu qu'il y a des changements de prix encore plus forts. Donc ça, c'est important pour avoir des chiffres qui soient en lien avec le ressenti, la réalité des ménages.
C'est ce qui est le plus difficile, d'avoir l'ensemble des chiffres qui représentent l'ensemble des situations. Ouais, c'est pour ça que dès que les journalistes parlent d'une moyenne en indiquant bien que c'est la réalité de personne, ben derrière, vous avez les insultes sur les réseaux sociaux parce que le gars à droite ne se retrouve pas avec le chiffre par rapport à sa vie. l'autre non plus, c'est pas ma vie. Dans quel pays vivez-vous? Sur quelle planète vivez-vous?
Voilà. Ces données existent. Et ensuite, l'intérêt, c'est qu'elles peuvent être utilisées précisément pour cibler les ménages qui en ont besoin. Sur l'exemple du carburant, il y avait cette idée de remise à la pompe spécifiquement pour les travailleurs des premiers déciles, et pour aussi indexer, par exemple, le SMIC qui est indexé sur l'inflation pour le premier 20% de la distribution, ça pourrait être aussi les premiers 10%. Et donc, si on a ces outils de politique publique, ça permet aussi de répondre aux attentes des gens de manière ciblée et de faciliter aussi le discours, me semble-t-il, pour les négociations salariales.
D'ailleurs, le SMIC a augmenté plus que l'inflation depuis un an. Il a fait plus 8%. On a 12 minutes. Je vous emmène sur le capital humain, Xavier Jaravel. Et puis on terminera par la Grande-Bretagne si on a le temps. Le Conseil d'analyse économique se penche sur... Alors, c'est Jean-Marc Vittori qui nous disait avant l'élection présidentielle, le premier problème économique de la France, c'est l'école.
Ouais.
Ça a fait un carton, hein, ça, Jean-Marc, je peux vous assurer. Il nous a dit il y a quelques années, celui qui paye à la fin, c'est toujours l'épargnant. Et là, c'est l'école. Et donc, le CAE sort une note sur le capital humain. Priorité des bonnes politiques, quel est le message?
Donc, c'est une note qui est parue hier. Et il y a deux messages. Le premier, c'est le ralentissement de la productivité en France et un enjeu macroéconomique très important. Oui. Pourquoi est-ce qu'en fait ce message est en fait assez nouveau? C'est que souvent on parle, mais à raison, mais on parle de la faiblesse du taux d'emploi en France. On parlait souvent des retraites sur ce plateau, de la réforme de l'assurance chômage. Ça est important. Mais ça prend vraiment une grosse part du débat économique. Et donc nous, ce qu'on a montré, ce qu'on ne s'attendait pas d'ailleurs forcément à trouver, c'est qu'il y a aussi un ralentissement de la productivité en France par rapport notamment aux États-Unis et à l'Allemagne. Et donc cette vieille idée comme quoi la France a moins d'emplois, mais ceux qui sont en emploi sont plus productifs et généralement on est plus productifs, ce n'est plus vrai depuis le milieu des années 2000. Et donc il y a eu cette baisse relative de la productivité en France par rapport à l'Allemagne, par rapport aux États-Unis. Et pour vous donner un chiffre, le manque à gagner en termes de PIB, c'est 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros en 2019, ça fait 65 milliards d'euros de recettes fiscales. C'est le même ordre de grandeur macro que de passer du taux d'emploi de la France de 65% au taux d'emploi de l'Allemagne de 75%. Donc ça, c'est le message numéro 1. Le message numéro 2, c'est d'où est-ce que ça vient? Donc on a mis de côté plusieurs pistes, comme le fait que ça vient pas, c'est pas tiré par un secteur comme l'industrie, quelque chose de très général. Et on retrouve la thèse là de Jean-Marc Vittori, qu'effectivement l'éducation est le premier problème économique pour la productivité. Donc on a cette baisse des résultats en mathématiques, dans d'autres domaines aussi. Un autre domaine important, c'est les compétences socio-comportementales, la capacité à travailler en équipe, la capacité à interagir avec des équipes aussi à l'international. Et donc cet effet-là, on le quantifie et on vous montre qu'il y a un enjeu macro très important. Pour vous donner un chiffre, en Allemagne, il y avait eu un choc éducatif dans les années 2000. Vous appelez ça le choc PISA. Vous avez eu des mauvais résultats PISA. Décidé de remonter la pente. Et donc,
c'était un électrochoc.
Voilà, oui. Électrochoc. Que nous, on n'a pas vraiment eu. On a eu des mauvais résultats TIMSS l'année dernière, avant-dernier de l'OCDE. Il n'y a que le Chili qui fait pire en maths que les élèves de 4e. Peu de réactions, finalement, en tout cas dans le débat public. Et donc, en réalité, on voit que l'Allemagne a réussi en 10 ans à remonter beaucoup la pente. Et donc, on pense que c'est un objectif qu'il faut se donner. Il y a plein d'outils, formation des formations initiales, des professeurs, attractivité du métier de professeur, contenu des programmes. Donc, il y a toute une palette
d'outils. Autonomie des établissements.
Voilà, qui prend beaucoup de temps à être mise en œuvre. Un autre élément qu'on met en avant et qui est un peu nouveau, même peut-être très nouveau, c'est que cette baisse de niveau, elle concerne aussi les meilleurs élèves. Ce qui est très largement absent du débat français et qu'on voit dans les données, que vous regardiez PISA ou des scores, des tests nationaux. Et le dernier élément de la note, c'est qu'il y a aussi un enjeu sur l'orientation. Donc même à qualité éducative constante, il y a un enjeu de l'orientation des talents vers les métiers, notamment de l'innovation, les activités scientifiques. On est très en retrait, là encore, par rapport à l'Allemagne. Et là aussi, il y a un enjeu de croissance très fort. Donc on pense qu'avec ces deux leviers, aux orientations à capital humain donné et augmentation de la performance éducative et du capital humain. Avec ces deux leviers-là, on peut augmenter la croissance et combler en 15 ans cette perte de productivité. Plus 0,4 points de croissance par an.
C'est absolument fondamental ce que vous venez de dire. Et c'est vrai qu'on regarde beaucoup le taux d'emploi et on est un peu moins présent sur la question de la productivité. Ce que vous dites est très juste sur la baisse de niveau des meilleurs élèves. Vous en parlez à des enseignants qui font des entretiens dans les grandes écoles, par exemple. Mm-hmm. Un certain Jean-Marc Daniel en fait notamment à l'ESCP. Il constate ça. Et vous en parlez à des chefs d'entreprise qui, pour des raisons bien précises, vont aller chercher des profils bien précis. Alors là, évidemment, c'est du Sciences Po Paris, ou alors c'est du Arts et Métiers. eh ben, le profit qu'ils sont allés chercher, c'est marrant, il ne correspond plus exactement au résultat qu'ils pensaient obtenir en allant chercher ce profil. Et je vous ai raconté l'histoire, mais là, je ne donnerai pas de nom, de ce chef d'entreprise qui veut un Sciences Po Paris, parce qu'on sait à quoi correspond un Sciences Po Paris quand on a 45, 50, 55 ans. Il ne l'a pas gardé à la fin de la période d'essai, parce qu'il ne cochait aucune case de ce qu'il espérait d'un Sciences Po Paris. Et il avait contacté à ce moment-là l'administration de cette école où il connaissait des gens, et on lui avait répondu... Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Je vois bien ce que tu veux dire. C'est vrai que le niveau n'est plus le même. Alors maintenant, nous, les bons, les vrais, les purs, on les repère. Et si t'en fous, on te donnera les noms. C'est l'horreur. Mais c'est vrai. Oui, Laurent Wroski. Alors, les compétences. Alors ça, c'est l'école.
C'est un sujet qui me passionne, parce que je suis ravi qu'on ait une magnifique note. Je suis pas là si vous
voulez. Il faut pas dénigrer les experts. On en a besoin.
Non. Mais si vous voulez Les managers qui m'écoutent ce matin savent très bien que ce problème, on tire la sonnette d'alarme, pas depuis 10 jours, ça fait plus de 10 ans, mais juste 15 ans.
Je termine.
Et donc, ça fait à tel point que je me suis lancé dans une aventure avec d'autres camarades où on crée des écoles. Et aujourd'hui, on fête les 10 ans d'Espérance Banlieue et on a bientôt sans doute 18 écoles. Donc il faut bien comprendre que c'est pas quelque chose qui est apparu sur le téléscripteur la semaine dernière. La baisse de niveau, les conséquences du papy-boom. Regardez autour de vous, vous avez énormément de métiers. Il n'y a pas qu'à Sciences Po ou HEC ou la qualité ABC. Vous avez énormément de métiers aujourd'hui qui sont tenus par des gens qui ont les cheveux gris ou les cheveux blancs. Ces gens-là sont en train de partir maintenant à vitesse accélérée, puisque ce sont les baby-boomers, et ils ne sont soit pas remplacés, donc là il n'y a plus de problème de compétences parce qu'il n'y en a plus, soit par des gens qui n'ont pas les compétences. Et ça on le voit à tous les niveaux, que ça soit le maçon du coin, que ça soit le boucher, même des petits métiers, c'est pas limité aux élites. Donc le problème que vous soulevez de l'éducation, je dirais quelque chose qui a été mis sous le tapis. Je rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps, on disait que c'était impossible de dégraisser le mammouth. Hein, je ne veux pas rentrer dans cette discussion. Et donc, on sait très bien, c'est du bon sens. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Que plus vous avez quelqu'un qui est éduqué, plus généralement, il est mieux armé pour résoudre certains problèmes. Ça, c'est sur la question de l'éducation. Mais évidemment que ça impacte la productivité, mais pour une raison très simple. C'est que quand vous avez quelqu'un qui fait un travail qui est incomplet et qu'on doit le reprendre deux fois, trois fois. Et je pense que beaucoup d'industriels qui m'écoutent seront d'accord. Les problèmes qualité que nous connaissons depuis maintenant 5 ans sont, un, d'une trivialité inégalée, c'est-à-dire que c'est du basique de chez basique, c'est du niveau de « je peins le mur de la mauvaise couleur », et une accélération. Et donc, sur le sujet, c'est pour ça que je pense que c'est un sujet auquel nous avons reconnu l'urgence il y a plus de 10 ans, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans les écoles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas rattraper un tel retard en appuyant sur un bouton. Mais évidemment qu'il faut miser sur l'éducation. Sauf que là, c'est double peine. On a, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais on a eu des méthodes éducatives dites New Look qui ont mis, je dirais, au rebut des méthodes traditionnelles qui avaient montré leur efficacité. Donc là, je pense qu'il va falloir remettre l'église au centre du village. C'est la première chose. Et donc, remonter les standards. Et deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, on a, si vous voulez, énormément de postes qualifiés qui sont laissés par des gens qui partent à la retraite. Et là, il y a un vrai problème de comment on fait pour les remplacer.
Juste deux remarques très
rapides. Allez-y, Xavier,
sur les demandes des chefs d'entreprise, il me semble que jusqu'à récemment, la demande principale, c'était plutôt du côté imposition, impôt de production, impôt sur les sociétés. Mmh. En tout cas, des discussions que moi j'ai eues. Ah. Et ça, c'est en train de changer aujourd'hui parce qu'il y a les pénuries de talents. Mais il me semble qu'il faut bel et bien qu'il y ait une demande large, y compris du tissu économique, pour que ce sujet soit vraiment au premier plan. Et à mon sens, il n'était pas vraiment au premier plan. L'autre exemple, c'est effectivement vos activités dans les écoles, très important. Il y a beaucoup d'associations qui font des travaux comme ça. Et une des parties de la note, c'est précisément de montrer comment on peut essayer d'articuler à grande échelle tous les travaux très importants que font l'association pour donner davantage accès aux écoles, notamment sur les sujets liés à l'orientation, et diffuser les bonnes pratiques à l'échelle nationale, où il y a plein d'initiatives, des associations, des entreprises, mais qui aujourd'hui sont en ordre assez dispersé et pas vraiment dimensionné à l'ampleur du problème. Donc c'est ça, nous, qu'on espère pouvoir mettre en musique.
Enfin, il est certain qu'à un moment, il va falloir arrêter de baisser le niveau des diplômes faute de monter le niveau des élèves.
Ah bah, c'est une évidence.
J'avais une discussion tout récemment avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ces sujets et qui dit oui, l'apprentissage, c'est fondamental, mais pas l'apprentissage des bacs plus 4. L'apprentissage, c'est qu'il y a des gens, il faut leur dire très tôt, non, tu n'iras pas jusqu'au bac car ça ne sert à rien, et tu vas aller en entreprise. Mais c'est ça la révolution de l'apprentissage.
La question, vous voyez, notamment, qui est vieille comme le monde, de la dévalorisation du travail manuel et des efforts, que ce soit les associations professionnelles, de la sonnette d'alarme qui a été tirée sur les lycées professionnels, je suis désolé, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait 20 ans que j'entends ça, monsieur, c'est pas nouveau. Maintenant, sur les associations, il y a des associations qui font avec leurs petits bras. Nous, on a 18 écoles, alors à notre échelle, c'est énorme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fait le succès d'Espérance Banlieue, c'est que nous, on a considéré que rien n'était un totem, et que donc on allait prendre les meilleures méthodes, qu'on a benchmarké par rapport à la planète, et qu'on a injecté ces méthodes, et qu'aujourd'hui, on a des résultats. Donc, l'effort, il est aussi au niveau du dogmatisme. C'est qu'il faut renverser les tables et privilégier le pragmatisme aux dépens du dogmatisme. Maintenant, dernière chose, je vous invite à regarder les carnets de campagne de Croissance Plus sur les 10 dernières années et vous verrez que beaucoup de nos propositions concernaient l'éducation. Parce que les problèmes que j'ai évoqués, on les touche du doigt depuis 10 à 15 ans.
Il y a Will qui m'écrit, le manque de compétences est très visible dans le monde de la mécanique, les techniques et savoirs se perdent. Bon, on l'a vu aussi dans le monde du nucléaire.
Absolument.
On a 2 minutes, Jean-Marc, on dit un mot de quoi? Soit vous voulez continuer là-dessus, ou alors on dit un mot du UK.
Bah, même un mot de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est hallucinant. Depuis maintenant plus de 10 ans, les banques centrales mènent des politiques très accommodantes parce qu'il n'y a pas assez d'inflation, on en parlait tout à l'heure. Hein, il faut arriver à 2% et donc on met des moyens considérables. Là, on a un pays qui a une inflation de 10% et la banque centrale annonce qu'elle va fabriquer 65 milliards de livres pour venir en aide à l'État. Enfin, c'est hallucinant. Mmh. C'est absolument hallucinant. On se demande parfois si on a changé de monde. Ce qui s'est passé là, c'est incroyable. Et donc, ça traduit vraiment, une détresse, une forme de panique. Ça amène à se poser des questions sur ce qui va se passer après, ailleurs. Parce que ce qu'a fait la Banque d'Angleterre avant-hier, est-ce que la Banque Centrale Européenne va pas devoir le faire un jour sur des pays européens, du continent, à commencer par l'Italie. Et donc là, on est vraiment dans un monde qui est complètement différent, avec, encore une fois, quelque chose qui devient une perspective qui se rapproche, mais dont on ne voit absolument pas quelle forme elle peut prendre, qui est une forme de fuite devant la monnaie.
C'est assez terrible. Hein. Il y a les oui, allez-y,
je rappelle. Je rappelle aux auditeurs que ce qui s'est passé, c'est l'élection de Liz Truss.
Oui, oui.
Une des promesses de campagne, c'était une baisse d'impôts, notamment sur les contribuables très aisés. Mm-hmm. Donc ça, c'est très cher. L'effet sur la croissance à court terme est très peu probable. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Mais le cœur du problème, c'est cette logique au début politique, promesse de campagne, parti conservateur. Pour l'instant, on ne voit pas ça dans les pays du continent, mais ça peut changer.
Relance budgétaire très très forte, effectivement. Le point de départ, c'est une relance budgétaire très très forte.
Voilà, le risque de défaut, l'incident de crédit, le FMI, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pas réservé. Parce que 10% d'inflation, c'est le record du G7.
Et y a des analystes qui estiment que ça pourrait approcher les 20% dans quelques mois au Royaume-Uni.
Donc, on va pas s'ennuyer. Hein.
Bah oui, ça c'est sûr.
Il y a une forme de chaos en l'espace de quelques jours. Souvenez-vous, c'était Christian Parizeau qui nous expliquait par le menu comment un incident de crédit pouvait s'écrire dans l'histoire en moins d'une semaine. Ah bon, on a terminé, c'est la fin de la semaine. Merci Xavier Jaravel, Jean-Marc Vittori, Laurent Vronsky. On suivra, la prochaine fois, vous me racontez où vous en êtes de vos kilowattheures.
De mes tribulations énergétiques.
Ouais. Vous êtes passé de 63 à 3000. Hein.
De 63 à 3000,
c'est cool. On se retrouve lundi à 9h.